Merci d'écouter RFI les 5 heures à Paris comme à Rome.
Martin Guèze.
Un pape venu du bout du monde, singulier et ouvert. Voilà l'image que gardent en tête des milliers de fidèles venus pleurer François, que cela soit place Saint-Pierre ou à Buenos Aires, l'évêque de Rome, mort ce lundi à l'âge de 88 ans après 12 ans de pontificat, notamment marqué par 5 voyages sur le continent africain. RFI se mobilise toute la matinée après la disparition du pape François. Édition spéciale à retrouver tout à l'heure à partir de 6h temps universel. Dans ce journal, nous serons aussi en Ukraine où les bombardements russes ont repris. La trêve n'était qu'un mirage, notamment pour les habitants de Kramatorsk, une ville de l'Est à quelques kilomètres du front. Reportage à suivre d'Emmanuel Chaz. Enfin, la Chine s'en prend aux États-Unis et aux pays comme l'Inde qui cherchent à négocier avec les Américains pour alléger l'addition des droits de douane. Émotion et recueillement à Rome où les fidèles ne s'attendaient pas à ça après avoir aperçu le pape François lors des célébrations de Pâques dimanche. Les catholiques ont appris la nouvelle de sa disparition ce lundi et ont afflué par milliers place Saint-Pierre. Le souverain pontife est mort hier à l'âge de 88 ans des suites d'un AVC, annonce le Vatican. Une nouvelle qui a bouleversé Vanessa, jeune romaine de 24 ans, qui est venue prier hier soir en sa mémoire.
He is a pope.
C'était un pape très modeste et qui faisait attention aux plus pauvres. Il faisait attention à la paix et je me souviens très bien de lui aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, car pour nous, les jeunes, il a dit et fait beaucoup de choses. Et donc oui, pour moi, il était très important. Son message était de rester debout, même dans l'obscurité, et de toujours chercher la lumière lorsque tout semble noir. Je me souviens de lui pour ses mots très importants. Et oui, il va me manquer.
Un témoignage recueilli au micro de notre envoyé spécial Daniel Vallot. Quelle image, quel héritage pour le pape François. Les hommages sont unanimes et saluent un messager d'espoir et d'humanité, comme le fait le patron de l'ONU, Antonio Guterres. En Argentine, son pays natal, le président Javier Milei a décrété un deuil national d'une semaine et a exprimé sa profonde douleur, saluant la bonté et la sagesse de François. Un pape singulier, proche des gens, se souvient lui Lionel Messi, la superstar du foot mondial, qui le remercie d'avoir rendu le monde meilleur. « Tu vas nous manquer », écrit-il sur son compte Instagram, accompagné d'une photo avec Jorge Mario Bergoglio, devenu souverain pontife en 2013. À Buenos Aires aussi, les fidèles se sont rassemblés, lui qui avait été archevêque de la ville de 1998 à 2013. Rassemblement aussi à Notre-Dame du Congo, à Kinshasa, ou à Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Bangui, la RDC, comme la Centrafrique, où François s'était rendu, lui qui avait effectué au total 5 visites sur le continent africain durant ses 12 années passées au Saint-Siège. Au total, l'évêque de Rome sera passé par 10 pays du continent, à savoir le Kenya, la Centrafrique, l'Ouganda, l'Égypte, le Maroc, le Mozambique, Maurice, Madagascar, mais aussi donc la RDC et le Soudan du Sud début 2023. Des passages très marquants, que cela soit à Bangui en 2015 ou lors de sa dernière tournée africaine il y a 2 ans, François qui a multiplié les messages de paix, de respect de la souveraineté africaine. Il avait pris position pour mettre fin au colonialisme économique et aux conflits armés ces dernières années.
Lors de son premier voyage au Kenya et en Ouganda en 2015, le pape François débute son aventure africaine par la cause la plus chère à son cœur, la lutte contre la pauvreté. Après une visite dans un bidonville de Nairobi, il fustige, comme à son habitude, le capitalisme ultralibéral et la concentration des richesses, tout en appelant à une juste distribution des ressources naturelles et humaines. Lors de ses déplacements en Égypte et à Maurice, le souverain pontife félicite les deux États pour leur culture de dialogue entre religions. Il qualifie même l'Égypte comme une terre de civilisation et terre d'alliance. À Madagascar, François pointe la misère inhumaine qui frappe la grande île parmi les pays les plus pauvres d'Afrique et défend la protection de l'environnement en critiquant la déforestation massive. C'est depuis le Maroc qu'il met l'accent sur le sort réservé aux migrants, autre sujet cher à ses yeux, au point de se rendre dans un centre d'accueil de migrants de l'association catholique Caritas à Rabat. L'évêque de Rome ne fait pas l'impasse sur les conflits passés ou actuels, en appelant à la réconciliation en Centrafrique et au Mozambique, au contact des déplacés internes au Soudan du Sud et en dénonçant un colonialisme économique asservissant et un génocide oublié en République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique, ce n'est pas une terre à exploiter et à dévaliser, lancera-t-il depuis Kinshasa.
C'est dit en scène et les obsèques du pape François qui devraient avoir lieu entre vendredi et dimanche. La date doit être communiqué ce matin après une première congrégation générale qui aura lieu dans 4 heures. Les cardinaux qui auront ensuite la lourde tâche d'élire son successeur dans les prochaines semaines. Le pape François Proche des pauvres, des opprimés, modernisateur de l'Église, militant du dialogue interreligieux, sensible à la cause des Palestiniens et du climat. Autant de thèmes que l'on aborde tout au long de la matinée sur RFI. Nous serons à Madrid, à Mexico, à Port-au-Prince, au Proche-Orient, matinée spéciale en ce mardi 22 avril sur notre antenne, édition spéciale de circonstances à suivre à partir de 6h, temps universel 8h, heure de Paris, autour d'Andréane Mellard et de ses invités. Nos reportages et toutes les réactions à la mort du pape François sont à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. Dans le reste de l'actualité, difficile de croire à une paix durable en Ukraine après cette trêve express de 30 heures pour les fêtes de Pâques ce week-end. Un cessez-le-feu loin d'avoir été respecté, Moscou qui a repris ses frappes ce lundi. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit de son côté vouloir une réponse claire de la Russie sur sa proposition de trêve concernant les frappes sur des sites énergétiques. Direction l'est de l'Ukraine où il est difficile de croire à une accalmie. Reportage ce matin à Kramatorsk, proche de la ligne de front, où les habitants tentent tant bien que mal de continuer à vivre. Kramatorsk, où s'est rendu notre correspondante Emmanuelle Chaz.
À Kramatorsk, où les habitants sont habitués à vivre au rythme des alertes aériennes et des explosions, la trêve pascale annoncée par Poutine est passée presque inaperçue. Artem, un retraité, n'y a pas cru, mais vit avec la réalité de la guerre au quotidien.
Je ne sais pas si ça peut durer. Pour l'instant, la vie continue, mais le front n'est pas loin. C'est seulement à environ 20 kilomètres.
Le calme de la ville jure avec celui de la ligne de front si proche, mais Kramatorsk n'est pas épargné par les frappes quasi quotidiennes. Yana, une employée de mairie, raconte.
C'était calme pendant un jour et demi, mais ce matin, vers 3 heures, les explosions ont commencé. Pendant que nous tenons bon, je continue à travailler. Je le fais dans l'administration régionale de la région de Donetsk. C'est plutôt calme pour le moment.
À Kramatorsk, comme dans le reste de l'Ukraine, la menace de frappe aérienne reste constante. Lundi soir, Volodymyr Zelensky a réitéré sa proposition d'un cessez-le-feu partiel qui épargnerait au moins les infrastructures civiles et renouvelé son appel à un cessez-le-feu inconditionnel. Emmanuel Chaz, Kramatorsk, RFI.
Au Proche-Orient, 7 personnes sont mortes ce matin dans la bande de Gaza, tuées lors de 3 bombardements distincts de l'armée israélienne sur Gazaville et Khan Younes, bilan dressé par la défense civile palestinienne. Le nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël a lui mis la pression sur le Hamas hier soir. Mike Huckabee a enjoint le mouvement islamiste palestinien à conclure au plus vite un accord pour garantir la libération des otages encore retenus à Gaza en échange de l'entrée de l'aide humanitaire coupée par Israël depuis le 2 mars dernier. Et on termine ce journal dans les pas de J.D. Vance, le vice-président américain qui est l'un des derniers à avoir rencontré le pape François. C'était dimanche matin au Vatican. J.D. Vance qui est depuis hier en Inde, une visite de 4 jours consacrée aux questions commerciales. L'Inde qui cherche un accord avec Washington pour voir réduire ses droits de douane, les produits indiens aujourd'hui taxés à hauteur de 26%. J.D. Vance venu dire aux géants indiens qu'il va falloir choisir son camp, celui des États-Unis ou celui de la Chine. Une attitude qui agace Pékin, la Chine, met en garde ses partenaires, Nicolas Feldman.
Isoler l'économie chinoise ou voir ses produits surtaxés, le plan de l'administration Trump pour forcer ses partenaires à négocier fait réagir le ministère chinois du commerce. Pékin s'oppose fermement à tout accord qui se ferait au détriment de la Chine. Si de tels accords étaient conclus, ajoute le communiqué, la Chine ne l'acceptera pas et prendra des contre-mesures réciproques. Du Japon à l'Inde en passant par Taïwan, presque tous les voisins de la Chine sont en discussion avec les États-Unis. Cette semaine, ce sont des ministres sud-coréens qui sont attendus à Washington. Séoul s'inquiète notamment des conséquences des surtaxes sur ces géants Samsung et le constructeur automobile Hyundai. Si jusqu'ici Pékin répond aux attaques commerciales de Washington en imposant des droits de douane aux produits américains, les autorités chinoises veulent dans le même temps s'assurer du soutien des autres pays de la région et multiplient pour cela les initiatives diplomatiques. La semaine dernière, le président Xi Jinping était en Malaisie, au Cambodge et au Vietnam pour conclure des accords commerciaux.
Explication signée Nicolas Feldman du service économie de RFI. Enfin, en football, programme allégé ce lundi soir, les 4 rencontres de Serie A, dont Parme-Juventus, ont été annulées après l'annonce de la mort du pape. Une seule rencontre en Angleterre et nouvelle défaite de Tottenham battue par Nottingham Forest 2-1. Les Spurs qui sont seulement 16e de Première Ligue. Et puis enfin, un petit mot de tennis, la Lettonne Yelena Ostapenko qui s'adjuge le tournoi de Stuttgart en Allemagne en battant en 2-7 la numéro 1 mondiale Arina Sabalenka en finale RFI. Il est bientôt 5h10 ici à Paris. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Grand Reportage. Excellente matinée à notre écoute.